Donc, nous allons commencer ce podcast. Donc déjà, je vais faire Fungluy, parce que c'est comme ça que ça commence. Fungluy à tous. Donc Fungluy Dweller, Fungluy Fox, Fungluy Camisole et Fungluy
Bonjour. Stagne.
Merci. Merci à tous d'être... Fox, on n'a pas entendu, mais c'est pas grave. Merci à tous d'être venus participer à ce podcast un peu inédit. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait des podcasts, d'ailleurs. Sobrement intitulé « Marre des masques ». Le but étant, pour être assez clair, on parle trop des masques, on en a trop fait, enfin voilà, il y en a trop quoi, il y a trop, il y a des vidéos sur Rollis TV, il faut même des vidéos chapitre par chapitre, on peut plus. On n'en peut plus, et surtout, chez vous, vous devez avoir forcément d'autres ouvrages, ou même des choses récupérées sur Toc. Vous devez avoir d'autres ouvrages intitulés campagne, et que à force de vous faire encenser les masques et tout ça, vous vous dites, ah oh là là, mais j'ose pas faire autre chose. Si je vais demander un renseignement sur une autre campagne, je vais me faire envoyer bouler. C'est pas faux. Et justement, pour éviter ce genre de choses, on va tenter ce soir et le soir prochain, si on a survécu, de vous faire l'article des meilleures campagnes de l'appel au Toulouse. Meilleure campagne, car la plupart du temps on n'en parle pas. Je pense que vous êtes assez d'accord avec moi qu'on parle beaucoup beaucoup des masques quand même, non?
Ouais, un peu quand même.
Bah, dans le sens de la campagne de titre.
Voilà. Mais si on y réfléchit, et vous le verrez après cette soirée, la prochaine soirée, finalement, il y a plein d'autres campagnes tout aussi mythiques. Et vous allez le constater à notre emballement oral à chacun. Car le principe va être le suivant, c'est que chacun d'entre nous. Que je répète, Dweller, Fox, Camisole et puis Sergissant, et moi-même votre serviteur, nous allons devoir, à tour de rôle, défendre une campagne qu'on a jouée, qu'on a préparée, qu'on n'a jamais jouée, qu'on a maîtrisée une fois, deux fois, trois fois, qu'on a joué plusieurs fois parce qu'on est à chaque fois mort. Le fait est qu'on va essayer de la défendre. On aura environ une dizaine de minutes chacun. Le but, donc une dizaine de minutes pour la défendre, et après, les opposants, donc les quatre autres, devront tout bêtement tenter d'opposer à ces 10 minutes d'exposé des fins de recevoir, des contre-arguments, des ah mais n'importe quoi, enfin, en allant un peu au-delà, pour essayer ben, finalement de vous donner envie de tester ces campagnes, de les acheter. Et de. Alors, il y en a certaines, même on en a sauté, enfin cité, qui étaient sur Toc, donc qui peuvent être récupérables. Et donc, on va essayer de vous motiver là-dessus. Le but de cette séparation, c'est que. Bah, nous, qui sommes tous là ce soir, forcément, j'espère que vous le savez, les gars, mais on va forcément se faire un peu de spoil, hein, parce qu'on va forcément parler des campagnes. Donc, s'il y en a parmi vous, que ce soit dans l'émission, là, ou alors vous qui êtes derrière votre écran, alors on parle. S'il y a des choses que vous voulez pas écouter, ça sera découpé morceau, par demi-heure, campagne par campagne, pour éviter que vous ayez finalement, on vous file toutes les informations sur toutes les campagnes et que vous puissiez plus les jouer en tant que joueur. Ça serait un peu dommage. Donc voilà, messieurs, de l'autre côté vous êtes OK? Vous avez affûté vos arguments?
Affirmatif.
Si vous êtes au silence, ça va être une boucherie que je vais faire. Donc voilà les campagnes que nous avons sélectionnées. C'est assez simple, il y en a un paxon. On a Walker in the West, Terreur sur l'Orient Express, les Fungi du Got, le Rejeton dans l'Azathoth, les Ombres du Hoxotot, les Oripeaux du Roi, les Montagnes Hallucinées, la Chose sur le Seuil, la Trace de Tsatogua, Nightmare Agency, la Pierre Onirique, le Royaume des Ombres, les Yeux de Carlate, l'affaire Armitage, Utati Asphet, The Golden Dawn, Terror from the Skies, et on a aussi Nocturnum, Coming for the Circle, Atiurdor, Eternal Lies, Zalosny Quartet, L'Héritage Greenberg, l'affaire Jonathan Deluz, le Livre des Révélations, le Quatrième Cavalier, l'autre, Yotrafio, Liqueur d'Algues, le Réseau Divin, la Maison Reste Ouverte. Et pour terminer avec du Delta Green, en plus du Réseau Divin. Donc, Fox nous met la campagne du livre de base, le volume 12, et Etor et Benzuna, je sais plus trop quoi, là, de Casus Belli, hein, c'est ça, Fox?
Exactement.
Yes, qui se passe dans les années 70. Donc, Eh bien, c'est simple, je vais en prendre une parce qu'on a bien sûr, pour préparer cette émission, ça fait des semaines qu'on la prépare, hein, on a tous beaucoup travaillé. Le fait est qu'en ayant préparé cette émission, on a donc coché nous-mêmes les campagnes dont on pouvait parler. Et je vais donc prendre la parole le premier pour détendre tout le monde. Potentiellement, j'aurais pu en parler d'une dizaine, mais je vais me concentrer sur une campagne. Alors, je sais pas trop. Tiens, vous pouvez essayer de m'en imposer une si vous voulez, dans celle où je me suis mis à gauche. Non?
Ça m'intéresse.
Terreur sur l'Orient Express, vas-y.
Il y a Terreur sur l'Orient Express ou Walker in the West? Walker in the, ouais, the West. Qu'est-ce qui est. Ah, il y a Desperate qui va nous. Desperate? Sors de ta boîte de conserve, Desperate. On t'entend pas du tout. T'es tout petit.
Et dans un cylindre Migo.
Voilà. Dwyer, toi, tu voulais que je parle de quoi?
Toi, que tu parles de ouais, Walker in the West, ça m'intéresse bien, ou Terreur sur l'Orient Express que j'ai pas fait jouer.
Fox?
Allez, commence par la première, Walker.
Walker? Desperate, vas-y, parle un peu, voir. On t'entend pas terrible. Donc on va commencer, allez, on va commencer par Walker in the West. Walker in the West, donc attention, si vous voulez la jouer ou quoi que ce soit, vous devez vous déconnecter maintenant. Je mettrai les horaires précis, hein, sur le podcast. Et puis revenir à la suivante. Donc il est 21h26, c'est parti. Donc Walker in the West, c'est une campagne qui n'a jamais été traduite. Qui est éditée, je sais plus trop par qui, mais ça fait un moment maintenant qu'elle a été éditée. Par Pagan. Ah oui, par Pagan, très juste. Bien, ouais. Donc par Pagan, le principe de Walker in the West, c'est un peu... Je l'ai fait jouer, très honnêtement. Et comme assez souvent, quand je la lis, je me dis... Pff, oh là là. Un peu comme dans Les Montagnes Hallucinées, voir le trou du cul d'un husky pendant une trentaine de séances, ça va être un peu... Ça va pas être motivant. Et finalement, la préparation, elle est assez géniale. Car elle va très très habilement mélanger la découverte de contrées très très inhospitalières avec une espèce de mélange de The Thing. Ah.
C'est pas moi.
Les 24 heures du viennent de passer. Donc c'est un espèce de mélange donc de The Thing et puis d'une expédition. Car le principe se base sur un fait réel, alors je sais plus si je vais retrouver les noms comme ça parce que je l'ai pas relu. C'est le bateau qui devait s'appeler l'Erebus, je crois, de mémoire. Enfin, le fait est que c'est un navire qui était parti pour tracer une route au nord du continent américain, à travers les glaciers, et qui a donc disparu. Disparu là-bas, je crois que je me trompe pas trop. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu ou pas.
Ça doit être l'Erebus et le Terror, non?
Il y a et un le Terror.
De Dan Simmons.
Exactement, c'est ça. Donc c'est, on part un peu sur cette piste-là. Donc avec plusieurs étapes, notamment une étape, pas mal d'étapes de préparation. Alors très honnêtement, c'est la préparation. La préparation, ça pourrait être un truc un peu chiant à la Les Montagnes Hallucinées. Avec compter le nombre de trucs de sardines, machin, tout ça. Et finalement, c'est assez bien foutu. Moi, j'ai mis ça un peu de côté, parce que faire que de l'intendance, franchement, j'ai assez de la journée pour faire ça. C'est assez bien foutu, car les chapitres vont mélanger les villages qu'il y a au nord, donc des USA et du continent américain. Donc les villages un peu perdus. Avec des gens pas forcément bien dégrossis, donc une espèce d'ambiance un peu pesante, pas à la Twin Peaks, mais vous savez le film là où le mec il enquête, le mec Al Pacino là qui enquête dans un pays, exactement, voilà, c'est un peu cette ambiance là mélangée avec The Girl with the Dragon Tattoo là qui se passe aussi dans le nord, donc Millennium, voilà. Donc une ambiance froide avec des gens un peu bizarres et tout ça. On est sur la piste de ce qui s'est passé pour les Rebus et le Terror. Et donc on. Alors je me rappelle même, punaise, ça fait un moment. Là-bas, je me suis fait avoir par mon propre jeu. Je sais plus si on monte sur un bateau, mais je crois qu'on monte quand même sur un bateau. Je suis même pas sûr. Parce que je me rappelle qu'il y a pas mal de traîneaux. Et le fait est qu'il y a cette partie-là. Il y a une partie très intéressante aussi où on va être confronté aux autochtones, aux Inuits. Donc avec MP3 de chant, machin, une bonne préparation. Et surtout que le côté un peu chamanique et clanique des Inuits va être très important dans la résolution de la campagne. Mais pour une fois, vous voyez, c'est bien amené. C'est-à-dire qu'on se dit pas, ah putain, voilà des Inuits, bon, ils vont forcément nous aider, il faut écouter ce que veut dire le vieux, tout sec comme un raisin de Corinthe, là. Non, c'est plus intelligemment fait que ça, ça va être des allers-retours. Et vers un final qui finalement est pas énormissime. Ah, petite moto. Donc non, il n'y a pas de moto dans le Grand Nord. Mais donc le final en lui-même va être assez intéressant parce qu'il va pas être grandiloquent comme peuvent l'être certaines campagnes. C'est une campagne dangereuse, très dangereuse, de par les conditions atmosphériques et puis de par ce à quoi vont être confrontés les investigateurs. Mais dans mon souvenir, les joueurs avaient beaucoup apprécié cette espèce d'évolution. Il n'y a pas de sentiment de répétition et de se dire « Allez, encore, comme dirait Jean-Jacques Goldman, encore un matin, un matin pour rien, quoi. » Je veux dire, il n'y a pas encore... On se dit « Allez, encore un matin dans le froid, une journée identique, machin, on fait la bouffe, on s'occupe des chiens et tout ça. » C'est assez... Attendez, faut que je la retrouve, là. Alors, attendez, je continue. C'est bien fait, sans être répétitif. Et ça décompte plus, hein, vous me promettez, hein, parce qu'il faut que je la retrouve. Ah voilà, punaise, super. Walker in the West, il est où? Ah punaise. La chose sur le seuil, non, c'est pas ça. Il me reste encore 4 minutes, putain. Je suis mort, je vais me faire défoncer. Merde, c'est fou. Ah voilà, le marcheur des déserts. Parce que moi j'ai une traduction amateur. 198 pages. Oh, punaise. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Vous le voyez pas, mais c'est ça, quoi. Donc, si je résume un peu Ah oui, pardon. Je vous ai dit que le final n'était pas grandiose ou quoi que ce soit, ou trop grandiloquent. Si vous avez un minimum de connaissances de l'appel au Toulouse, le marcheur des déserts dans un pays froid... Vous vous doutez de l'entité autour de laquelle pourrait se dérouler le truc. Et l'intérêt. Exactement. Fraîchement pêché du matin pêché. Et donc le truc, c'est que si on y réfléchit, ça fait partie des entités qui sont les plus difficiles à attraper parce que quand elles se manifestent, c'est pas pouf, allez hop, 300 tonnes de barbac qui vous débarquent et qui vous écrasent comme une merde. C'est beaucoup plus insidieux. Et en plus, on peut la faire arriver sans la faire arriver d'un coup. Elle peut être là par vague. Elle peut... La vague de froid, hein, forcément, je vous cache rien. Mais voilà. Et puis, je me rappelle que ça avait pas mal semé le doute chez mes joueurs en se disant à chaque fois que je leur disais la température baisse, ils me disaient « Oh putain !» Et finalement, ça avait fait monter la sauce de façon notable. Et donc, contrairement à ce que j'en pensais, ça prend, la sauce prend. Il y a cette enquête sur ce qui est passé, ce qui est arrivé à l'expédition. Il y a forcément des cultes locaux, mais je ne vais pas trop vous en dévoiler non plus. Il y a tout ce qui tourne autour du chamanisme. Il y a quand même la confrontation avec le froid. Et puis voilà à peu près, parce que je vois que ça commence à Toronto, voilà, c'est l'île du roi Guillaume. Il y a le débriefing. Arrivé à Seattle, baptême de l'air, du marcheur des vents. Ah ouais, il doit y avoir un. Ah ici, il y a un dirigeable. Ah c'est sympa ça. Le marcheur des vents effectue un vol de test. Oui, si, c'est vrai, parce que c'est grâce à ça qu'ils vont. Parce qu'ils ont vu que les bateaux, c'était pas terrible. Donc c'est grâce à ça qu'ils vont essayer de remonter. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. C'est une campagne qui a été très documentée, parce que moi je suis pas le roi de la documentation, mais en réalité le mec qui a fait, c'est souvent ça chez les ricains, c'est-à-dire que le type, je me suis immergé pendant 9 mois dans un frigidaire à manger des Captain Igloo. Enfin, le type s'est vraiment imprégné, s'est vraiment renseigné sur ce qui était arrivé à cette expédition, à la vie dans le Grand Nord, sur les Inuits. Donc si vous voulez vous lâcher là-dessus, sur le côté descriptif et tout ça, si après les montagnes hallucinées, vous avez encore envie d'avoir froid parce que c'est bientôt l'été. Walker in the West, c'est pour terminer, parce qu'il est 36 bientôt. Pour terminer, Walker in the West, c'est une sorte de gros thing. Alors que quand vous la lisez, vous avez l'impression d'avoir une espèce de par-delà les montagnes hallucinées bis. Donc, c'est une campagne. Détrompez-vous. C'est beaucoup de boulot, mais détrompez-vous, elle sera à 99-95% de chance, elle sera géniale. Si vos joueurs accrochent, même s'ils sont pas fans du froid ou quoi que ce soit, s'ils aiment l'aventure et s'ils aiment jouer les découvreurs, ils adoreront. Voilà. C'était la première campagne. Donc je viens de vous essayer de vous vendre Walker in the West. Je sais, c'est l'émotion vous coupe la chic. Donc je vais vous la redonner. À partir de maintenant, donc vous allez pouvoir chacun à votre tour un peu prendre la parole, que ce soit pour me poser des questions, ou si vous connaissez la campagne, ou même si vous ne la connaissez pas, essayez de me contredire en me disant oui mais pourquoi? Et puis ça a pas l'air terrible et tout ça. Elle est trop grosse, elle est trop chère, je sais pas. Donc bien allez-y. Vous
Ok.
avez. Il est 36.
Ok, j'ai
Ah
une
oui,
question,
bien sûr.
si je puis me permettre.
Ah
Donc moi, je l'ai, mais je l'ai survolé très rapidement et pas en dirigeable. Juste, j'avais entendu dire qu'en fait, c'est une campagne qui est atypique parce que la manière dont les cultistes sont présentés est moins manichéenne et stéréotypée.
Tout à fait. C'est ce qui en fait un peu un des gros intérêts, c'est que quand les joueurs vont les rencontrer, ça va pas être du tout être marqué au-dessus de leur tête, vous allez tous mourir ou on est vos sauveurs. Pas du tout. Parce que vous allez devoir cohabiter un peu avec eux, parce que eux, ils vivent dans le froid, eux, ils connaissent certains des dangers, mais ils sont pas non plus tout blancs. Donc, il va falloir doser les relations que les joueurs ont avec, je dirais, le culte et les groupes qui sont sur place. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question?
Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'avais entendu dire carrément que, en fait, c'était des gens. Enfin, on découvrait des cultistes qui pouvaient être des gens avec des motivations qu'on pouvait comprendre et pas le fanatique là-bas voleur, précipitant le monde dans l'apocalypse, quoi.
Alors, c'est ça qui est assez intéressant. C'est un peu comme si. C'est un peu comme si dans les masques de Nyarlathotep, allez reprenons, dans le chapitre
On
qui
avait
va
dit non.
en. Bon, c'est comme dans un peu comme dans Terreur sur l'Orient-Express. Non, je peux pas. Bon, mettons dans les masques, vous avez les méchants qui couillouent, et puis une autre tribu sympa. En réalité, les gens. Voilà, exactement. Ils n'ont pas juste la motivation. En réalité, quand les joueurs arrivent, ils n'ont pas juste la motivation, soit de vouer un culte bête. Au big boss de la campagne ou à, je dirais, à ses entités, et ils sont pas non plus contre, c'est-à-dire que comme ils sont animistes, il y a tout un rapport à la nature qui les empêche d'être soit contre, soit complètement pour. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques,
Il n'y a
oui?
pas comme justement, bah, tu faisais le rapport, je pense, avec les montagnes, ce côté un peu, on fait du voyage et de la séance entière de voyage.
Alors non, là, l'intérêt dans Walker in the West, c'est que moi, et c'est la façon dont il le présente, on joue des destinations plutôt que des voyages. C'est-à-dire qu'on va moins jouer le trajet que arriver sur place à Toronto, machin, arriver sur place à Seattle, machin, arriver sur place près du clan Bidule. Là, on pose le camp. Enfin, après, je dirais que c'est aussi à toi vraiment de savoir ce que tu veux en faire, mais le fait est qu'on joue beaucoup moins. Par exemple, dans les montagnes, on joue la constitution de l'équipe. Là, non. Là, l'équipe, elle est faite. Vous êtes des gens assez reconnus, je crois, hein, dans vos milieux d'expertise. Et donc, il y a une expédition qui est montée. Je sais plus si c'est par un milliardaire ou quelqu'un dans ce style-là. Mais il y a pas mal de recherches en plus derrière en bibliothèque. Mais le fait est que, voilà, c'est. Enfin, moi, dans l'acceptation que je m'avais eue, c'était plus des destinations plutôt que des voyages. Des voyages chiants ou des trucs impossibles à décrire, quoi. Quand tu passes 4 jours derrière un husky, Si tu leur dis vous vous arrêtez, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Si tu leur dis rien, c'est super chiant. Enfin voilà. Ça répond ou pas à ta question?
Oui.
D'accord. Ouais. D'autres questions?
Oui, moi. Ouais. Pour des gens qui maîtrisent pas la langue de Shakespeare, toutes les aides de jeu, c'est quand même assez problématique, non?
Ouais. Alors, toi qui es là. Alors, bon, ce serait quelque chose qu'on se ferait passer sous le manteau pour le moment. Mais tant que c'est les aides de jeu, ça poserait pas trop de soucis. Mais le document que vous ne pouvez pas voir mais que j'ai sous les yeux, c'est une personne. J'ai plus, je crois qu'il était tout seul, le mec. Il a tout traduit. 198 pages. Alors, je l'avais filé à Sans Détour. Je sais pas s'ils le sortiront un jour. Donc, bon, comme je suis réglo, maintenant, enfin presque... je ne le mettrai pas à disposition, mais par contre, j'ai 21 pages d'aide de jeu en français. Donc, il est tout à fait possible que sur TOC, dès que j'en aurai un peu le temps, je vous mette à dispo les aides de jeu pour The Walker in the West. Ça te va, monsieur Fox?
Oui, d'ailleurs, je dirais même plus, il y en a déjà.
Ah bon? Salopard.
Quand tu posais les affiches sous les yeux, il y a déjà les aides de jeu en français.
Ah, salopard. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas... Alors par contre, je sais pas s'ils la traduiront, parce qu'ils ont déjà traduit Les Montagnes Hallucinées, mais franchement, rien que pour le départ et pour le fait qu'on sache pas ce qui se passe à la fin non plus, franchement, Walker in the West, par rapport aux montagnes, on sait pas ce qui va se passer. C'est vraiment les joueurs qui font ce qu'ils veulent. Ils sont guidés et tout, mais il y a une chronologie qui fait que c'est très très ouvert. Donc, bon, je ne sais pas s'ils la traduiront, pour l'instant c'est pas prévu, mais j'espère, parce que c'est une très très bonne campagne qui avait été pas mal reconnue. D'autres questions, remarques et autres?
Je sais pas si on m'entend bien.
Vas-y, pas terrible, mais on t'entend, on te comprend quand même, vas-y, Despred.
Tout à l'heure on parlait du niveau d'anglais, des aides de jeu, et qu'est-ce qu'il en est de la campagne?
Alors... Soyons clairs, moi quand je l'ai préparé, je l'avais en anglais. J'avais le bouquin. Donc, en réalité, après j'ai bossé sur la version française, mais c'est tout à fait abordable. C'est un peu comme le... Enfin, je sais plus quel auteur avait dit ça, qui est un principe de base, c'est que tout auteur, finalement, dans toute œuvre littéraire, il y a une centaine de mots qui sont vraiment dédiés au vocabulaire de l'ouvrage. Une fois que c'est 100 mots, vous les avez notés quelque part, vous les connaissez, finalement c'est très facile à lire. Donc, très honnêtement, moi ça n'a pas été un blocage. Je suis pas bilingue, je lis bien l'anglais, puis avec Google et tout ça. Et puis ce que je dirais, comme je l'ai dit pour Fox, TOC, vous qui l'écoutez, vous qui participez ce soir avec moi, c'est là pour vous aider. Donc moi j'irai checker dans la version française si vraiment il y a des problèmes sur des passages, je pourrais tout à fait partager, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas un anglais bloquant, très honnêtement. D'autres questions? Remarque? J'ai bien répondu à ta question ou pas, Steve?
Oui,
mais non, je sais que toi tu n'auras pas de soucis, Steve.
Une question peut-être?
Yes, pas de soucis, vas-y.
Quel genre de personnage plutôt?
Alors pour la jouer, je sais plus s'il vous file, s'il propose des pré-tirés. Je vais regarder ça en même temps. Donc ça se passe fin des années 20. Je regarde un peu en même temps parce que je sais plus. Les dirigeables, les Inuits. Tiens, je vais vous donner les chapitres. Le résumé de la campagne, chronologie. Ça je vous dis pas. Rituel du culte, les gens des folklores, les Inuits, l'article, les dirigeables, les combats aériens. Nouveaux sorts et compétences, et après les chapitres, c'est au plus fort de l'hiver, au royaume du marchand des vents, vers Endurance, les secrets des Kouriks. Kouril, pardon. Le projet Camden, la maison Osbrook, l'obscur jumeau de Camden, le vol vers le nord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de fausses pistes et de twists. Le temps des décisions. Ah oui, le temps des décisions, très très bon. Il y aura des vrais choix à faire pour vos joueurs et putain, ça peut changer les choses et franchement, c'est pas des choix faciles. C'est très très bon ça. Et là, chapitre 8. Ah oui, c'est vrai que c'est censé se terminer parce que moi, c'était pas. J'ai vu du mal vers la fin, mais la fin, c'est vrai que c'est plus dans le. Ouais, la fin, c'est plus dans le froid, incident en Irak. Donc, pardon, je regarde. Est-ce qu'il parle au début des joueurs? De toute façon, je crois que ça débute, ils sont à une conférence ou un truc comme ça. Je regarde, hein. Je vous dis ça tout de suite. Putain, putain, les ressources, il y en a des tonnes au début. J'avais tout lu en plus, putain, je lis rien, mais là... L'Arctique, il y a des tonnes de trucs aussi pour jouer le froid, c'est pas mal. Avec la vitesse du vent, comme dirait Gilles Pétré. Voilà, prologue. Alors, l'expédition Franklin, c'est ça, formation. Les investigateurs font partie d'une expérience de longue durée conduite dans les franges nord du Canada. Le plan financé par l'Université de Toronto et le gouvernement canadien consiste pour un groupe sélectionné d'experts et de scientifiques à vivre, ah oui c'est excellent ça, et travailler dans une base permanente de la péninsule d'Adélaïde, près de l'endroit où se trouvent les restes de certains des membres de l'expédition Franklin. Il y a de nombreuses tâches à accomplir, décrites avec plus de détails dans la section intitulée On recrute.
Donc ce seraient des personnages un peu comme dans les montagnes hallucinées, un peu des voilà. Scientifiques ou des guides polaires.
Ouais, plutôt dans cette idée-là, avec des gens qui auront des travaux à faire, d'études du comportement humain, en isolement et tout. Mais franchement, moi clairement, je crois que je m'étais revu deux fois de suite, enfin deux fois The Thing avant ce scénar-là. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas.
Bien sûr.
Ouais. Bon ben voilà quoi. C'est pour ceux qui ont vu The Thing, vous imaginez les scènes que vous pouvez faire, mais. Pas juste sur une nuit, quoi. Avez-vous d'autres questions?
En fait, les investigateurs sont relativement faciles à intégrer.
Oui, très facile. À partir du moment où ils ont un domaine de compétences, et puis ça peut être l'étude des matériaux, des choses comme ça. Hein. Je sais plus à quel moment c'est, mais on va les amener sur la piste de l'expédition Franklin qui a disparu. Je sais plus si c'est parce qu'ils sont à côté, ils trouvent des morceaux et à ce moment-là ils se mettent à chercher. Enfin, j'avais des joueurs qui sont pas trop à métageux et tout ça et franchement ils avaient accroché parce qu'ils avaient vraiment eu l'impression d'être maîtres de leur destin et leur choix quoi. D'autres questions?
Il y a moyen d'intégrer un groupe de joueurs qui est assez stéréotypé dans cette campagne-là où on est vraiment obligé de jouer avec les prêts-tirés ou une équipe.
Tu veux dire stéréotypé du style le parapsy, le dilettante et tout ça?
Ouais, voilà, ouais.
Je dirais que le journaliste, il rentre, le parapsy, il rentre, le médecin, il rentre, l'universitaire, il rentre. Pour les compétences, moi j'avais des mecs aussi, si tu veux un peu des gros bras, ça rentre aussi, parce qu'il va falloir quand même acharrier du matos et tout ça, donc soit tu te dis, tu mets des PNJ pour l'intendance, soit ça peut être un joueur, tu peux avoir des pilotes, tu peux avoir même des militaires, des choses comme ça, et puis tu peux même un peu cacher des missions que certains, genre ils ont des missions un peu de surface, et puis derrière... Leur mission, c'est étudier le comportement humain en milieu confiné, dans le froid et tout ça. Donc, c'est assez ouvert, très honnêtement, pour l'intégration des personnages, même stéréotypés. Ça se fait plutôt bien. Enfin, tu vois, tu peux même... je dirais que tu peux les orienter soit expérience scientifique, soit expérience humaine, soit matos, soit compétences propres au milieu, quoi. Donc on pourrait dire que même un prêtre, tu vois, il pourrait avoir sa place là-bas, ou... Ah, c'est sûr que balancer un mafiosi de Chicago là-bas, c'est un peu plus dur, à moins qu'il échappe, il tente d'échapper à quelque chose, mais... Ou alors tu peux même te dire que la personne a comme but secret, elle sait que l'expédition qui a disparu est dans le coin, et il y a peut-être quelque chose à récupérer ou un truc comme ça, mais... Non, je pense que c'est assez ouvert. Ça te va comme réponse?
Ouais, c'est ça, c'est bon.
Moi, j'avais pas eu de problème pour créer les persos. Avez-vous d'autres questions, remarques?
Je sais pas si on en a déjà parlé, mais la durée de vie.
C'est toi, des sprites, qui parle là?
Ouais.
Ah bah super, ton micro, ouais. Ah putain, c'est top, là. Okay. Donc, la durée de vie... Alors, je dirais que c'est une campagne qui est difficile. Mais... On ne se confronte pas à des créatures ou à des gros dangers du mythe par vague, comme ça peut l'être dans les Masques de la Totep ou dans le Terre sur Vente Express, parce que là on s'en mange des méchants. Là je dirais les choix, c'est pas des choix on-off, c'est-à-dire que s'ils ont fait des choix à la con, s'ils veulent faire des tours de garde la nuit dans le froid, bah tu leur fais faire des jets, et puis voilà, ils vont perdre un doigt de pied, des choses comme ça, le mec il va tomber dans les pommes, ou alors des choses comme ça. S'ils vont faire les cons dans le froid sans leur guide. Ah oui, tiens, quand tu parlais de personnages tout à l'heure, c'est toi qui m'isole.
Ouais.
Ouais, ben, les personnages, tu peux avoir aussi des personnages du cru. Tu vois, des guides. Où, moi, je me rappelle que j'avais un sans-mêlé, un mec moitié Inuit, moitié américain. Ça peut être très sympa, pour, il revient à source et tout ça. Donc, ce que je disais à Desprez, c'est que, en réalité, pour la mortalité, non, elle est pas mortelle. Alors après, c'est toujours le dosage que peuvent faire les gardiens, mais il n'y a pas de gros moments on-off, quoi. Genre, ils sont allés à gauche, il fallait qu'ils aillent à droite, bon, bah, c'est mort.
Vu la campagne, ça sent le Gnofke, non?
Pardon?
Je disais, ça sent un peu le Gnofke, non? Le monstre à six pattes avec une belle corne sur le pif.
Ah, tu le connais? Tu l'as déjà utilisé?
Pardon, ça fait partie du bestiaire de l'appel et j'imagine assez bien que c'est si tu fais une campagne là-bas.
Mais ouais, de toute façon, il a été rajouté, je crois, à cause de Walker in the West. Ah, mais ça, enfin, il y a des créatures. En plus, c'est assez sympa parce que, point de vue mortalité, c'est pour ça que j'aurais bien aimé parler de. Alors, j'essaie d'en faire parler un de vous s'il l'a pas, s'il l'a coché, parce qu'il y a le Royaume des Ombres qui fait partie moi, de mes meilleures campagnes. Ben voilà.
Donc,
c'est génial. Et le fait est que, et dans Walker in the West, l'intérêt c'est qu'on va être aussi confronté à des monstres, des entités qui sont pas forcément nos ennemis, qui vont pas forcément être contre nous. C'est, je dirais que dans le dosage du danger, il faut bien les classer. Et c'est plus, tu vois, des réflexions comme ça, des sprites qui feront que si des joueurs ils sont complètement cons, ou alors si t'as vraiment merdé et puis s'ils passent à côté de tout, ça marchera pas. Par contre, si t'as bien fait ton affaire, si tes joueurs sont un peu futés, ils arriveront au bout. Après, ça fait mal. Il va y avoir des problèmes. Voilà. Tu vas y avoir des pourcentages qui vont baisser avec les enjures et tout ça. Ou alors s'ils font, s'ils se mettent de biais avec les Inuits, peut y avoir des problèmes, parce que les Inuits c'est pas des rigolos. Et eux ils maîtrisent leur environnement, mais voilà, c'est pas mortel. Moi j'avais pas limité, comme on peut le faire dans certaines campagnes, en disant je divise le nombre de monstres par deux, parce que sinon ça marchera pas. Moi mes joueurs ils étaient 3 ou 4 et c'était très bien passé.
Une question, Douala.
Bien sûr.
J'en parlerai peut-être pour les montagnes, mais dans ce genre de campagne très itinérante et vu le cadre, est-ce qu'il y a une possibilité de remplacer un personnage qui se fait tuer? Parce que c'est pas forcément toujours facile de faire entrer un nouveau personnage.
Alors, ça c'est très bonne question et c'est assez difficile, soyons très honnêtes. Les moments, il y a des moments au début et vers la fin où tu pourras récupérer, mais quand vraiment ils sont paumés dans le froid, c'est très délicat. Donc il y a plusieurs choix, comme d'hab, c'est soit d'emmener des PNJ. Alors ça a plusieurs utilisations, les PNJ, c'est s'ils flippent pas assez, tu commences à tuer les PNJ, ça devient intéressant, hein. Quand t'as tué le mec qui s'occupait des chiens, ça va devenir rigolo. Ou le mec, ou le guide, ça devient aussi marrant. Et donc l'autre intérêt, c'est que si t'as un pool de 4-5 PNJ, c'est un peu plus compliqué, hein, on le sait tous, pour le gardien, mais ça te fait des personnages de remplacement. Parce qu'au début et à la fin, ils peuvent être confrontés à des gens qui peuvent intégrer, mais c'est pas simple. Soyons très honnêtes, c'est pas simple. Après, t'as toujours moyen de rebondir. Tu peux te dire que quand ils vont trouver une des premières tribus inuites, il y a peut-être un mec qui était parti en expédition, qui s'était perdu et qui s'est retrouvé à être recueilli par les Inuits. Et puis dès qu'il voit des Occidentaux se pointer, aussitôt il se précipite pour rejoindre le groupe. Mais il faudra trouver un peu des trucs et astuces. Parce que ça, c'est pas aussi simple que les masques où voilà, on passe par des grandes villes. Ça se fait bien, quoi. Donc non, c'est pas aussi simple.
Après, si tu fais du PNJ d'expédition, moi ils peuvent commencer à se lier à ces personnages et c'est peut-être plus facile pour eux après d'en choisir un à interpréter.
Alors tout à fait, l'intérêt c'est qu'ils vont commencer à s'y lier, donc si tu les interprètes bien, ils auront déjà choisi, et puis en plus, s'ils commencent à avoir un peu d'affection, quand tu les tueras, ça sera encore plus sympa. Parce qu'ils seront dégoûtés. Ah non, pas John. si, John, Mahmoud. Il reste plus que... Voilà, le fameux Mahmoud dans les masques. Et non, John, il reste plus que un espèce de morceau tout dur, tout congelé. C'est les restes. Donc, En effet, ça demande du boulot. Hein. Honnêtement, ça demande ce qu'on vous a fait pour les masques, c'est-à-dire de faire des petits chevalets pour les poser sur l'écran pour que les mecs soient finalement quelque part toujours présents pendant la campagne, quoi, sur votre écran. Une dernière question avant que mon temps soit définitivement imparti.
Ouais, il y a une question de chronologie à respecter ou de temps pour la montre ou un truc comme ça ou pas?
Alors, de ce que je me souviens, dans le froid, et là je suis en train de regarder la chronologie, elle définit le début, donc c'est assez libre. Quand je regarde la chronologie, ils disent... Dans mon souvenir, c'était assez libre, la chronologie. Ah oui, non, il va falloir faire quelque chose. Terminé quand c'était... Non, alors ça c'est peut-être le côté qui pourrait être un peu casse-burne. Bon, en même temps ça peut être décalable. Parce que c'est pas une éclipse hein, comme dans d'autres scénars. Mais il y a un final à une date précise. Mais en réalité, ce que tu me fais pointer la camisole, c'est que finalement dans Walker in the West, je pensais plus apprécier le reste de la campagne que le froid, et finalement, bah c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus apprécié les parties dans le froid. La partie au début, j'ai bien aimé, alors que la partie vers la fin de l'Irak et tout ça, je m'en souviens plus trop, c'était plus tip-top moumou, je me demande si j'avais pas sabré des trucs. Parce qu'on s'était vraiment bien pris notre pied avec les Inuits, avec le froid, avec le côté très très The Thing, donc voilà. Ça vous va ou une petite dernière question, mais super ouais. Ninja? Yes.
J'avais, ouais, je voulais juste encore te demander bon, tout à l'heure,
bien sûr.
Je t'ai posé les questions de la durée de vie.
Ouais.
Je voulais plutôt parler du
temps ah, du jeu. Tu sais.
Je t'aurais aussi posé la question de la mortalité. Je peux y répondre, mais c'est une campagne.
Alors, de 6 ans. C'est quand même une campagne longue parce qu'il y a pas mal. Bah, elle est longue parce qu'elle est intéressante et qu'il y a des découvertes et des choix à faire par les joueurs. Comme ils vont pas être très très guidés comme pourrait l'être Terreur sur Nantes Express, c'est long. C'est vraiment une campagne longue. Moi, à l'époque où je l'ai joué, on jouait tous les lundis, 4 heures. Donc tu vois, ça allait assez vite. Parce qu'en plus, d'un lundi sur l'autre, bah, tu te rappelles ce que t'as fait. Donc c'était assez rapide. Mais c'est une campagne longue, ouais. C'est, enfin, je dirais une partie toutes les 2 semaines ou une partie par mois, ouais. C'est au minimum une année quand même.
Ok.
C'est quand même une vraie campagne et qui ne peut pas être morcelable. Autant vous voyez les masques, on peut se dire ah ils arrivent dans un pays, tiens je vais faire un petit scénar annexe et hop on continue après. Là non quoi. Les scénars annexes au pays des Inuits c'est pas terrible. Donc voilà. Alors j'espère que on va faire comme dans l'école des fans. Attention et puis moi, enfin faut être honnête. Hein. Moi je suis toujours honnête et je suis toujours direct. De 1 à 5. Des sprites, tu mets combien à ma campagne?
Là, tu m'as donné bien envie.
C'est vrai?
Ouais. Vraiment, je lui mets 3,5-4, mais avant de la lire.
D'accord. Dweller, tu mets combien de 1 à 5?
Moi, je reviens de l'Antarctique, donc forcément, j'ai envie de repartir. Donc moi, je lui mets 4 parce que je sais que c'est du pagan et que ça me fait envie aussi.
Camisole?
Ah, moi, c'est pareil, ça me donne bien envie. Après, moi, j'ai moins d'expérience que vous, j'ai l'impression, par rapport à tout ça, mais là, ça donne envie, comme ça. Le côté un peu libre, pas trop. Enfin, tout ce que tu as décrit, quoi. Ça donne vraiment envie. Je mettrais pareil, 4, quoi.
Ouais, cool, Fox.
Ouais, moi, 3,5, 4 aussi. Pagan, c'est souvent des campagnes un peu difficiles, des fois, à appréhender. On peut toujours avoir un peu peur lorsqu'on les lit. Mais souvent, elles ont vraiment une vraie saveur en jeu. Et je pense que ce que tu as dit. Être vraiment réel en termes de plaisir de jeu.
Oh, ouais, très honnêtement. Et s'agissant
bah, moi, je mettrais 3 parce que, comme des sprites, je sors un peu du grand froid du sud. Mais en fait, pour le coup, j'ai peur que ça fasse un peu redite pour moi. Après, ça, c'est juste mon avis, mais je pense qu'effectivement, une campagne est simple.
Ah, mais enfin, tu as tout à fait raison parce que c'est quand même une campagne très très typée, quoi. C'est une campagne très tripée, froid et tout ça, donc... Ok, bon, donc... Pardon ?
Tu lui donnais combien avant ?
Moi, avant de la lire, je lui donnais 1,5. Je me suis dit... Pff, ouais. Et après l'avoir lu, je pense qu'en éradiquant ce qui m'a fait chier vers la fin et tout ça, je lui mettrais... Par rapport aux autres... Ouais, je lui mettrais un 3,5 facile, ouais. Un bon 3,5. Okay. Ouais, parce que c'est vraiment une bonne campagne que j'ai eu plaisir à jouer, quoi. Où je me suis pas embêté.